Voix Nue. Cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Jean-Claude Zilberstein. Ce soir, qu'est-ce que je vais devenir ?
Bonsoir Jean-Claude Zilberstein.
Bonsoir Émilie.
Avocat, éditeur, un temps journaliste, chroniqueur de disques, de jazz et de romans policiers dans le Nouvel Observateur, dans France Soir, Jazzotte, Jazz Magazine. Vous l'écrivez et vous le dites régulièrement, vous n'avez jamais su choisir un seul chemin, vous avez mis du temps pour cela. Et aujourd'hui, vous écrivez dans vos mémoires, publiées chez Alary Éditions, Souvenirs d'un chasseur de trésors littéraires, que vous ne regrettez rien et que vous vous seriez sans doute fourvoyé si vous vous étiez forcé à choisir plus tôt. Mais à l'époque, vers 20, 25 ans, 30 ans, comment est-ce que vous viviez ces études avortées, délaissées et ces passions multiples ? Est-ce que vous vous confiez à des amis, à vos parents, de cette incapacité à choisir ? Est-ce que ça vous pesait ?
Ce qui me pesait beaucoup, c'est précisément d'être sans situation. La vie de pigiste, ça a été un petit peu mieux à partir de... Enfin, ces années-là ont été ce qu'on peut appeler la grande époque du Nouvel Observateur. C'était les premières années du journal créé par Père Driel et Jean Daniel, puisque j'ai rencontré Guy Dumur en 66, à peu près la même année que Marie-Christine, et qu'il m'a fait entrer... très modestement, mais avec mon nom dans l'ours du journal. Tous les autres étaient des étoiles de la presse, et du coup, j'en ai bénéficié. Mais avant 66, en 66, j'avais quand même 28 ans, dans l'intervalle, j'étais pas plus fier que ça. Et il m'est arrivé d'accompagner une très bonne amie à New York. Avait besoin de moi sur place parce que je parlais bien anglais, etc. Et alors, on est dans l'avion et, pardonnez-moi le prosaïsme une fois de plus de l'expression, je tire la gueule. Et cette dame, très gentille, me dit « Mais pourquoi est-ce que tu as cet air maussade ?» Et je lui ai dit « Mais tu te rends compte, j'ai 24 ans, j'ai foiré médecine, le droit ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je vais devenir ?» J'allais pas continuer à faire le danseur mondain comme ça, accompagner des dames à New York pour leur servir d'interprète et peut-être davantage si affinité.
Dans quel business d'ailleurs elle vous embarquait, cette
dame ? L'art, une galerie de tableaux.
D'ailleurs, comment vous viviez à l'époque ? À quoi ressemblait votre piole d'étudiant, si vous en aviez une ?
Ma piole, elle était chez mes parents. Il fallait que j'ai le
d'où les confrontations régulières avec...
Oui, le gîte et le couvert. Et c'est pour ça que Paulhan m'a proposé de venir habiter chez lui pendant 6 mois pour que la tension retombe.
Vous dites qu'à cette époque-là, c'est la musique qui l'emporte, le jazz. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette musique ?
Je considère le jazz comme une musique particulièrement dynamisante par son rythme, charmante par ses mélodies, et aussi en raison du charisme de ses musiciens. Et alors les musiciens de jazz que j'ai pratiquement tous rencontrés, de Miles Davis à Coltrane, tous ces gens-là m'ont beaucoup séduit et je les ai beaucoup admirés parce que ils ont beaucoup payé de leur personne. Ils étaient vraiment en mouvement. Nombre d'entre eux, pour gagner pas grand-chose, nombre d'entre eux ont mené des vies assez misérables, voyageant énormément, ne trouvant pas le temps de se soigner. Beaucoup sont morts très jeunes. Je parle même pas de Charlie Parker à 33 ans, comme le Christ, ou... plein d'autres à 40 ans, Coltrane s'éteint malade et épuisé, mais il y a une part de générosité, à mon sens, chez ces musiciens qui apportaient leur art de façon plus incommode que certains peintres, mais enfin bon, il y a Van Gogh ou Gauguin, et surtout que beaucoup d'écrivains sous l'égide, c'est très bien, il est allé au Congo, il est allé en URSS, Mais tous ces écrivains que je vois calmement installés derrière leur bureau à remplir, parfois le petit doigt en l'air, leurs manuscrits, ça force moins mon admiration que les grands créateurs qui bougeaient.
Les musiciens, les chanteurs de jazz généreux, ça venait un peu démentir ce que vous pensiez de l'humanité, comme vous nous l'aviez dit hier soir.
Ce sont des exceptions.
Encore, il y a beaucoup d'exceptions.
Ben oui, c'est pour ça qu'on dit l'exception qui confirme la règle.
Alors, vous dévorez la presse spécialisée.
Oui.
Et vous finissez par écrire à l'un des rédacteurs en chef, on peut dire, pour lui proposer de faire des revues de presse. En tout cas, vous ne lui proposez pas. Vous lui dites, ça manque de ça.
Voilà.
Et il vous le propose.
Oui.
C'est de mettre Ioakimidis,
qui était d'origine grecque et qui vivait à Genève et qui m'écrit. J'habite Genève, mais je viens à Paris à telle date. On peut se rencontrer dans un café tel jour. Donc j'y suis allé. Je lui ai dit, écoutez, moi je lis la presse anglo-saxonne spécialisée, Jazz Review, Métronome, Jazz Monthly. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus ce que faisait Boris Vian dans Jazzot, c'est-à-dire des comptes rendus, des articles, des artistes signalés. Et il m'a dit, mais écoutez, je vois que quelqu'un pour faire ça, c'est vous. Jazzot, la revue créée en 1935 par Charles Delaunay, le fils de Robert et Sonia Delaunay, ça a été un premier pas dans le paradis.
Et dans le monde du journalisme.
Et dans le monde du journalisme, puisque quelques temps plus tard, assez vite d'ailleurs, Jazz Magazine, qui n'avait personne pour faire le même travail, bizarrement, même dans les milieux du jazz, très peu de journalistes et d'amateurs parlaient anglais. Et donc j'ai fait ça après à Jazz Magazine, et là j'allais dans les coulisses de l'Olympe, qui organisait avec cet impresario sympathique, une belle figure de l'univers du jazz, Norman Granz, qui était beaucoup fait pour la lutte antiségrégationniste. Il refusait d'organiser des concerts dans des salles réservées aux Blancs dès les années d'après-guerre. Et donc j'étais dans les coulisses de l'Olympia, du théâtre des Champs-Élysées, et j'ai croisé Mingus, Miles Davis, Coltrane. J'ai pris le petit déjeuner avec Ellington.
Qui à l'époque n'étaient pas les stars et les mythes que l'on connaît maintenant.
Non, je pense que les domaines dans lesquels j'exerçais mes critiques, je faisais mes critiques, le polar et le jazz, c'était ce que j'appellerais les chiens écrasés de la culture. Alors évidemment, aujourd'hui, quand je dis à un jeune amateur de jazz que j'ai pris le petit déjeuner avec Duke Ellington, déjeuner avec John Lewis, ou plus encore passer 3 jours avec Coltrane, ils ouvrent des yeux grands comme des soucoupes. Mais à l'époque, ça me faisait un immense plaisir, mais c'était pas du tout valorisant.
Alors en attendant, donc vous écrivez dans ces magazines et vous utilisez un pseudonyme parfois.
Oui.
D'Argent Pierre,
oui,
traduction littérale de Silberstein.
Oui, Silber Argent, Pierre Stein, parce que je fais des critiques de disques classiques. Il y a quelques rédacteurs en chef de journaux, à commencer par Guy Dumur, qui a quand même eu une influence majeure sur ma... indirecte, mais majeure sur ma carrière d'éditeur, en me proposant de faire la chronique des romans policiers, qui n'était pas vraiment mon domaine de prédilection, puisque c'est après 15 ans de chronique de polar que j'ai eu l'idée de créer cette collection dont on me dit qu'elle a fait les beaux jours de 10-18, c'est-à-dire Grand Détective, avec ce florilège de Grand Détective historique, c'est-à-dire allant depuis les pyramides d'Égypte jusqu'à nos jours. Mais il y a aussi eu Jean-Louis Ginibre, que j'avais rencontré à Jazz Magazine, qui après s'est occupé de lui, qui m'a fait venir à lui. Et c'est à lui, je crois, que j'ai commencé à faire à la fois des chroniques de disques de jazz et de musique classique.
Et donc il fallait différencier l'amateur de jazz et l'amateur de musique classique.
Ben oui, ça me paraissait... Vous savez, en France, on déteste les gens qui cumulent les activités, qui mélangent les genres, c'est épouvantable.
Qui ne savent pas choisir.
Il faut être unidimensionnel, il faut embrasser une voix et ne plus jamais s'en écarter.
Alors, revenons au domaine du jazz, ces chanteurs, ces musiciens dont vous dites qu'ils avaient une générosité, quelque chose d'un peu marginal, d'un peu déglingué, où ils n'hésitaient pas à donner de leur personne, est-ce qu'ils ont été pour vous des héros de jeunesse, des modèles ?
Bon, des modèles, non, parce que je ne pensais pas avoir le centième du talent, mais c'était des héros, oui.
Vous dites aussi de ces années de chroniqueur jazz qu'elles n'ont pas été les plus giboyeuses de votre carrière, que vous n'en viviez pas. Mais qu'importe, écrivez-vous, j'ai pu assouvir ma passion, faire connaître des talents méconnus. C'est un peu toujours ce que vous avez fait, y compris plus tard avec les livres. Il faut rendre lisible, il faut rendre visible et, d'une certaine manière, rendre justice aux auteurs.
Oui, c'était une injustice à réparer. Rétablir un équilibre, c'est peu dire que, quels que soient les arts, la littérature, la musique, etc., il y a quand même une polarisation du succès sur les best-sellers. Il y a un panurgisme que je trouve extraordinaire. Et donc, j'ai eu à cœur de vanter, de louer, d'essayer de pousser vers le devant de la scène des artistes qu'ils méritaient tout autant que les vedettes d'être appréciés par le public. Parfois, je l'ai fait avant que le public retourne sa veste et se mette à admirer. Par exemple, un pianiste immense qui s'appelle Bill Evans, qu'aujourd'hui, enfin, par la suite, tout le monde a révéré. Il n'y avait pas d'éloge assez grandiose et de louange à lui tresser. Dans ses premiers disques, la critique a dit que c'était au mieux un petit maître doué ou un pianiste de cocktail. Et Coltrane, par exemple, l'immense Coltrane, comme on pourrait dire, a été sifflé en 1960. Et en 1961, c'était à qui s'égosillerait le plus pour dire « Hourra, bravo !»
Et où est-ce que vous les découvriez, ces petits talents ou ces nouveaux talents ? Vous alliez les écouter ?
Non, c'était surtout sur disque.
C'est
un pianiste qui est dans ce qu'on appelle la section rythmique. La section rythmique, c'est le trio piano, basse, batterie. Et il y a un pianiste que j'ai toujours trouvé exceptionnel et qui s'appelle Wynton Kelly, encore un qui est mort à 40 ans. Il est né à la Jamaïque et on retrouve dans son jeu, à mon avis, un côté dansant très jamaïcain.
En quoi la critique était importante pour vous à cette époque-là ? Est-ce qu'il fallait, est-ce que le plus important dans la critique, c'était de transmettre, de faire connaître ? Est-ce qu'il y avait autre chose pour vous de plus personnel et de plus égoïste dans l'écriture de critique ?
De plus égoïste ?
Oui, d'un plaisir plus égoïste, celui de...
Non, non, c'était le juge. Je voulais faire connaître, faire découvrir au plus grand nombre... Bon, j'ai quand même l'esprit critique très développé et donc j'estime souvent, à tort ou à raison, que certaines vedettes populaires ne sont pas celles qui ont le plus de talent. Et donc j'ai souhaité faire partager le goût que j'avais trouvé chez tel ou tel musicien. Mais il y en avait aussi pour... certaines divas, Ella Fitzgerald était une reine incontestable du chant de jazz, Sarah Vaughan aussi et d'autres. Mais parfois, il y en a, je citerai Betty Carter. Je cite un mot de Poulenc. Poulenc me disait « Ne dites jamais d'un écrivain qu'il est méconnu, c'est le meilleur moyen pour qu'il le reste. » Alors, je répugne à utiliser le terme, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre, notamment de musiciens de jazz, mais aussi de chefs d'orchestre classiques, de pianistes classiques, qui étaient méconnus en faveur des grandes gloires, les Kempf, Arao et autres, dont je ne discute évidemment pas l'immense talent, mais de la même façon que moi, j'ai pas voulu avoir une seule carrière. Je pense qu'il faut avoir des admirations multiples et ne pas dire « Ah, moi, pour moi, il n'y a que Horowitz ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, vous avez beaucoup écrit sur le jazz et puis, donc, à la fin des années 60, les romans policiers dans le Nouvel Observateur. Donc, vous avez déjà fait allusion à votre rencontre avec Guy Dumur, qui recherche justement le chroniqueur qui sera capable de d'écrire sur sur les romans policiers. Qu'est-ce que l'écriture chez vous de ces articles a fait évoluer dans votre rapport aux œuvres, qu'elles soient musicales ou littéraires?
Ça a déployé ma curiosité encore plus. Enfin, déjà pour le jazz. Il ne me reste que 30 500 vinyles et des livres. Alors là, aujourd'hui, bon, quand même le temps, j'arrive à un âge où on fait le bilan. Je m'inquiète presque de la variété de mes curiosités.
Pourquoi ?
C'est beaucoup. Alors je me dis peut-être que j'ai pas suffisamment approfondi tel domaine, tel secteur, tel auteur, je sais pas.
Votre rapport au roman policier, au moment où on vous a proposé d'écrire des critiques, vous l'avez dit, était encore pas si prononcé. Vous n'aviez pas encore.
Pas du tout. Mes parents étaient très hostiles au fait que je lise des séries noires. Ça avait mauvaise réputation.
Vous étiez obligé de les cacher d'ailleurs chez vous.
Hein?
Vous étiez obligé de les cacher.
Oui,
chez vous.
Ils étaient derrière. Au second rayon, comme on dit à propos des ouvrages érotiques ou libertins. Alors, il y a une série que j'avais évidemment lue, une série de grands détectives, si l'on peut dire. C'est tous les livres de Chester Himes qui se déroulent dans le Harlem des années 50 avec ses deux héros, Cercueil et Fossoyeur, qui sont hauts en couleur parce que ça se passe dans l'univers du jazz. J'avais lu un ou deux James Hadley Chase, sans doute quelques Peter Cheney espionnage, mais le jour où Guy Dumur descend du bureau de Jean Daniel au Nouvel Observateur et que je l'entends se parler à lui-même en disant à qui donc est-ce que je pourrais demander de faire des chroniques de polar, il souhaite ça là-haut, c'était la rédaction en chef dont les membres, il y avait Jacques Laurent Bost, il y avait Serge Laforie et Jean Daniel, ils aimaient bien, eux, les polars, et ils voulaient quelqu'un qui fasse le tri, et en même temps pour les lecteurs. Et alors, j'ai l'impression de paraphraser Dumas quand je dis « son regard fit le tour de la pièce et s'arrêta nécessairement sur moi puisque j'étais la seule âme vivante dans la pièce, et il me dit « mais Jean-Claude, on cherche à vous faire gagner 100 sous ». Filez chez Gallimard, demandez les trois dernières ou quatre dernières séries noires, faites un papier, et si ça leur plaît là-haut, vous aurez une deuxième pige toutes les semaines. Ça a duré 15 ans, et au bout de 15 ans, j'ai refait le parcours en sens inverse, en commençant à rééditer les meilleurs livres que j'avais chroniqués, à commencer par, pour moi, l'incontournable Justy de Robert Van Gulik, ce magistrat chinois qui fait ses enquêtes dans l'Empire des Tang. C'est un panorama une évocation de la Chine ancienne, mais dont les caractères traditionnels perdurent, à mon avis, qui est vraiment exceptionnel.
Qui a inauguré d'ailleurs la collection Grand Détective chez 10-18 que
oui,
vous avez.
Dont j'étais persuadé, parce que c'était le moment. La Chine s'était réveillée, pour paraphraser Alain Perfit, et donc je savais qu'il y aurait un intérêt.
Alors, à cette époque, on vous a aussi proposé, ça c'était à François, d'être journaliste, d'aller couvrir
oui.
des faits de société,
oui.
notamment une grève dans le Nord, et vous avez, même si vous avez réfléchi, vous avez fini par refuser. Pourquoi ? Vous ne vouliez pas devenir journaliste ?
Parce que je voulais rester entre mes livres et mes disques. Vous savez, je crois que j'ai été un peu reclus d'une certaine façon, parce que la communication avec mes parents, vous l'avez évoqué à juste titre, n'était pas très positive. Mais les livres et la musique, c'était vraiment ma consolation. Je crois que ça m'a gardé la tête hors de l'eau et que sinon. Vous savez, je dis aussi à Marie-Christine, que serais-je devenue sans toi ? Marie-Christine, les livres, la musique. Enfin, Marie-Christine a pris le relais des livres et de la musique, en quelque sorte.
Qui ne sont jamais vraiment sortis de votre vie,
ah ben non.
cependant.
Non, aujourd'hui encore, je vous dis, en ce moment, j'ai une période monk intense où j'écoute et je réécoute ces compositions, ces enregistrements de 1947, qui ont été, sur le coup, très méconnus et dont les musiciens de son époque avaient peur, parce que c'était des compositions, des arrangements très sophistiqués, un peu dissonants, et il a vraiment attendu longtemps son heure. Il l'a eu pendant 66, 10 ans, un peu plus, 70, et puis ensuite il s'est muré dans le silence. C'est un personnage exceptionnel.
Alors, si je faisais allusion à cet épisode où on vous a proposé de vraiment vous installer dans le métier de journaliste et que vous avez préféré refuser, c'est que on a quand même l'impression que vous ne voulez jamais vous installer tout à fait, que vous voulez courir à l'étape d'après ou ailleurs, en tout cas que vous voulez demeurer insaisissable. Et c'est aussi ce qu'il s'est passé lorsque on a essayé de vous rattraper aux presses de la Cité, lorsque Sven Nielsen a voulu vous licencier. Que Georges Simenon, que vous avez rencontré dans le cadre d'une interview, a tenté d'arranger les choses et que vous avez dit non, mais en fait, on a l'impression que vous voulez préserver votre liberté à tout prix, plutôt que de vous laisser installer dans un confort professionnel ou relationnel.
Paulan, il m'arrive encore de dire, mais en quelque sorte, c'est affectueux de ma part, mon maître. Parce que j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu 1000. Lao Tzu aussi. Simenon, d'une certaine façon. Et en fait, à l'issue des 18 mois où j'ai été, durant lesquels j'ai été salarié aux presses de la Cité, j'ai eu un conflit assez pénible qui avait trait à mes origines, puisque Nielsen était persuadé que j'étais un agent du sionisme international pour des raisons d'une absurdité complète, mais bon. Et donc il voulait que je démissionne, et j'avais enfin découvert qu'il y avait des avocats spécialisés dans le droit d'auteur, le droit de la presse, c'est-à-dire qui s'occupaient de livres, de musique, de films, enfin d'audiovisuel, de journaux, et ça me paraissait fait pour moi. Et donc, je voulais être licencié parce que je voulais percevoir, au moins pendant un an, des indemnités de chômage, même si ma paye, qui était une paye pour un poste à mi-temps, était tout à fait minime.
Vous n'avez jamais rien quitté, en fait. Vous avez fait quelques années de critique et de chronique, mais vous n'avez jamais quitté l'édition pour autant. Et ce, grâce à un homme qui s'appelle Bernard de Fallois. Que vous rencontrez grâce à Marie-Christine, notamment.
Oui, après l'épisode des presses de la Cité...
Donc vous êtes parti.
À l'été 70, je m'étais dit, l'édition, c'est vraiment un milieu de malfrats. Je continue à faire du journalisme pendant mes études, mais l'édition, ça va bien, il y a des clans dans les maisons. À l'époque, aux presses de la Cité, il y avait trois clans. Il y avait le clan Bourgois-Dominique de Roux, il y avait le clan Plomb avec Marcel Julien, et puis le clan des presses de la Cité, Nielsen avec Georges Lézère. Et quand j'allais dans les couloirs, j'aime bien dire qu'il fallait se courber pour pas prendre des scuds d'un clan à l'autre. Et puis avec Marie-Christine, à la rentrée 70, donc 3 mois plus tard, nous allons chez Betty Duhamel, une amie de Marie-Christine qui venait de publier un petit roman chez Gallimard, je crois, Gare Saint-Lazare, et elle nous présente un garçon, je donne mon nom, et il dit « Ah, c'est vous qui faites les chroniques de Polar à l'Observateur. Moi, je travaille avec Bernard de Fallois au Livre de Poche, on a failli vous proposer un job, mais le budget était à partager avec... Gallimard, il s'agissait de faire une sélection de séries noires pour le Livre de Poche, et qui s'appelle Bernard de Fallois. Donc, on s'est revus, et il m'a fait collaborer au Livre de Poche, policier surtout, mais comme ça, comme conseiller, en me disant, je ne te propose pas d'emploi au Livre de Poche, termine tes études, on verra bien plus tard.
Bernard de Fallois, il a aussi contribué à faire connaître des textes à l'époque... méconnu, en tout cas inachevé, de Marcel Proust, et je me suis demandé si ça n'avait pas eu une influence sur votre penchant, si c'est rien de le dire, qui est de faire connaître des textes inconnus et des auteurs inconnus. Est-ce que Bernard de Fallois a été, d'une certaine manière, votre maître ?
Non, je pense que j'avais développé ce goût-là plus tôt, Il y a sans doute un lien. J'ai toujours été attiré par les cultures minoritaires parce que j'ai encore aujourd'hui le sentiment d'appartenir à une minorité.
Donc Bernard de Fallois vous permet de garder plus qu'un pied dans l'édition et puis par la suite de conseiller littéraire. Vous devenez directeur de collection. Comment est-ce qu'on devient directeur de collection et comment est-ce qu'on choisit les œuvres ?
Alors, tout ça est arrivé très naturellement. Donc, Fallois, il quitte le livre de poche. À ce moment-là, moi, j'ai terminé mon droit. Je commence à être avocat et pas chez n'importe qui, chez Georges Kegeman. Et là-dessus, il quitte Hachette et il va aux Presses de la Cité, justement. Alors moi, je lui dis, Bernard, ciao, bonsoir, c'est la fin de notre collaboration. J'espère que ce ne sera pas la fin de notre amitié. Et il me répond, non, j'ai parlé de toi avec Nielsen.
Donc cet homme qui vous avait écarté ?
Oui, c'est un malentendu. Je lui ai dit que tu ferais partie du comité de lecture de Julliard que je vais diriger moi-même avec Anne-Philippe, Jean-Marc Roberts. Et tu t'occuperas surtout de la littérature étrangère. Donc pendant 5 ans, j'ai déniché des auteurs, y compris Primo Levi, ce qui est quand même quelque chose d'assez stupéfiant et qui en dit long sur le travail intensif des éditeurs. C'est une litote là encore. Et Calvino, dont les 3 premiers livres n'avaient jamais été traduits, John Didion, qui n'a eu, je dois dire, aucun succès à l'époque. Cette implication dans la littérature étrangère, surtout anglo-saxonne, mais pas seulement, aussi italienne, un peu espagnole, c'est ça qui m'a poussé à créer, quelque temps plus tard, Domaine étranger. Et donc, moi, j'aime bien les raconteurs d'histoire. J'ai été nourri au sein des raconteurs d'histoire. C'est eux qui ont développé mon imaginaire et tout
les
ça.
Les aventures.
Oui. Et donc, je constatais que les grands raconteurs d'histoire anglo-saxons, surtout, était devenu introuvable. Et donc, quand j'ai conçu le projet, j'en ai parlé à Fallois, qui m'a dit qu'il trouvait que c'était un peu élitiste, en tout cas pour la collection qu'il supervisait. C'est devenu Pocket par la suite. Et à ce moment-là, quand il a prononcé le mot élitiste, j'ai pensé à Christian Bourgois et à 10-18, et je lui ai dit, penses-tu que je pourrais aller ? Ah, il m'a dit oui, bonne idée, 10-18 marche à moitié bien en ce moment, ça pourrait lui être utile, il vaudrait mieux qu'il fasse ça plutôt que des sciences humaines dont on vend 200 exemplaires.
Et donc c'est comme ça que vous êtes devenu à la tête de
plusieurs. Et c'est comme ça que j'ai créé ce qui s'appelait dans un premier temps une série, enfin que j'ai dirigée, et je rends cette grâce à Bourgois de m'avoir laissé carte blanche.
Merci Jean-Claude Silberstein.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Jean-Claude Silberstein. À voix nue, réalisation Véronique Villa, prise de son Yvon Charby, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.